leur marche était rythmée sur le rythme du Seigneur. Et ils avaient comme seule boussole et métronome la présence de Dieu. La présence de Dieu, cette nuée qui était descendue sur le tabernacle, et quand la nuée avançait, le peuple suivait. La nuée s'arrêtait, le peuple s'arrêtait. Sommes-nous prêts à accepter de marcher là où il veut nous emmener et quand il le veut, à son rythme? Notre rythme est-il synchronisé avec le sien? Première attitude, apprendre, reconnaître ce temps de formation, apprendre à être à son écoute. La deuxième attitude, si nous recevons ce temps comme une formation du Seigneur, soyons des élèves, des disciples attentifs et besogneux. Parce que pour les élèves qui sont encore en études, ou pour les salariés qui parfois vont dans des cycles de formation, si je vais dans une formation et que je suis distrait, et que je textote, et que je vais sur Internet, et que je n'écoute pas, la formation, elle ne va pas me servir à grand-chose, elle me servira même à rien du tout. Donc si je reconnais que les traversées du désert sont des temps de formation que le Seigneur permet, alors, Seigneur, je veux apprendre quelque chose. Je veux apprendre quelque chose. Une formation à l'écoute et à l'obéissance, et pas seulement à la compréhension. Là aussi, j'imagine, si les enfants d'Israël, Moïse leur dit, voilà, l'Éternel a dit, quand la nuée ne bouge pas, on reste là. La nuit, ce n'est plus une nuée, c'est une colonne de feu. Quand la nuée avance, on avance. Vous avez tous compris? Oui. Et puis, il y en a un qui dit, ouais, ben, moi, j'ai compris, mais ça ne m'intéresse pas. Moi, bon. Donc, la compréhension, c'est une chose. Je peux comprendre. Mais est-ce que je suis prêt, est-ce que j'accepte d'obéir? Et la formation du Seigneur, la formation avec Dieu, c'est ça. Ce n'est pas de comprendre uniquement. C'est de dire, oui, Seigneur, j'accepte. Ce n'est pas dans ma manière de voir les choses. Ce n'est pas comme ça que j'aurais fait. Mais j'accepte d'être un élève, un disciple. Et ce qui me surprend dans l'histoire du peuple d'Israël, au désert, c'est qu'en toute logique, la colonne de nuée, elle aurait dû les conduire directement de l'Égypte vers la terre promise, puisqu'elle était leur indicateur, leur boussole. Donc elle aurait dû les conduire directement, puisque c'est Dieu lui-même qui conduisait le peuple. Et ça aurait dû prendre quelques semaines, quelques mois. Que s'est-il passé? La nuée a-t-elle été défaillante? A-t-elle perdu le nord? J'imagine les enfants qui disaient « Papa, mais il me semble qu'on est déjà passé là l'autre jour. » Parce qu'ils ont tourné dans le désert, 40 ans dans le désert, obligatoirement. Je pense qu'ils ont dû repasser à des endroits. Mais ce rocher-là, en forme, tu sais, en forme de chabot, là, mais on l'a vu l'autre jour. Mais ça me parle, cet endroit-là. Et c'est sûr qu'en 40 ans, ils ont dû passer, tourner, mais ils ne semblaient pas avoir compris la leçon. Et je me suis dit, n'avons-nous jamais connu des temps, des situations dans nos vies, des circonstances où on s'est dit, mais ça ressemble étrangement à quelque chose que j'ai déjà vécu. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, hein, mais je me dis, mais cette situation, pas forcément tout à fait la même, mais j'ai déjà vécu ça quand même. Mais quel enseignement en avons-nous tiré? Aurions-nous si vite oublié la leçon au point que le Seigneur nous fasse repasser par le même chemin? Et si le peuple a tourné en rond, s'il en est parfois de même pour nous, ne cherchons pas le problème du côté de Dieu. Il a eu besoin de 40 ans pour nettoyer le cœur des Israélites de l'idolâtrie, de leur inconstance, de leur rébellion. Permettons au Seigneur qu'il n'ait pas besoin de 40 ans pour faire le même travail dans notre propre cœur. Pour garder ses forces dans le désert, pour avoir une chance de survie, il y a deux ingrédients essentiels. C'est vrai dans la vie de tous les jours, mais particulièrement dans le désert, la nourriture et l'eau. Et mon troisième point, la troisième attitude qu'il me semble importante de considérer dans la traversée du désert, c'est de choisir à quelle source se désaltérer et de quelle nourriture se rassasier. Et je remarquais que dans la plupart des récits bibliques qui nous parlent du désert, l'eau et la nourriture sont un point important. Le peuple d'Israël, ça n'est une découverte pour personne, il est question de la manne, qui était quand même un point central de la main de Dieu au quotidien. Il est question de l'eau de Mara, qui était amère et imbuvable. Il est question de l'eau qui jaillit du rocher à Horeb et d'autres situations encore. Le texte de la servante Agar, la servante de Sarah et Abraham, dont il est dit « L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert ». Il est question d'eau, là encore. Élie qui a mangé un gâteau comme je suis certain que personne ici n'en a jamais mangé. Vous retrouverez ça dans 1 Roi, chapitre 19, verset 3. On ne va pas le lire ce matin. Et Jésus lui-même, dans le désert, il nous est dit qu'il eut faim après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits. La nourriture et l'eau sont des points qui reviennent régulièrement dans le désert. Et concernant la manne, il y aurait certainement beaucoup de sujets d'études sur ce point-là, mais cette nourriture surnaturelle, distribuée miraculeusement par le Seigneur lui-même, il est écrit « Je ferai pleuvoir sur vous du pain du haut des cieux ». Alors là, je me suis projeté, vous savez, des fois, je ne sais pas si vous le faites, de se projeter dans des textes, des écritures, et de les mettre dans notre période contemporaine. Et là, je me suis imaginé le bulletin météo avant le journal de 20h, phénomène surnaturel, alerte orange, une pluie de pain est tombée sur... Non mais, imaginons la situation, où un pilote d'Air France qui traverse un nuage de pain qui tombe du ciel, ça devait être quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Et je remarquais que Dieu aurait pu fabriquer miraculeusement la manne sur terre. Il aurait pu fabriquer la manne sur terre. Mais il a choisi de faire autrement. Il a pris de ce qui était à lui pour l'amener et le donner à son peuple. Et cette nourriture divine n'a rien de commun à toute autre nourriture. C'est un régime spécifique. Le peuple était à peine sorti d'Égypte que déjà il murmurait, regrettait les pots de viande, le pain dont il se nourrissait en Égypte. Mais Dieu a pour ses enfants une nourriture spécifique, adaptée à nos besoins. Et si nous prenons encore plaisir à nous nourrir des choses de notre ancienne vie, comme le peuple d'Israël l'a fait à plusieurs reprises, c'est qu'il y a un sérieux problème à régler dans notre vie. Si nous avons toujours plaisir à nous nourrir des choses de notre ancienne vie, au fil des années de marche chrétienne, il nous arrive peut-être de ronchonner ou de bouder comme un enfant gâté devant une assiette de manne parce que nous préférons les friandises du passé. Si nous avons la même nourriture spirituelle que les gens du monde, c'est que nous avons laissé beaucoup trop de choses mauvaises envahir à nouveau nos vies. Alors il faut le reconnaître. Soit je m'en satisfais, oui, mais de toute façon, moi, la soupe, les épinards et les légumes, ça me va bien, mais moi, je préfère les friandises. Ben oui, mais si tu préfères les friandises, ne te plains pas que ta vie est en train de dépérir et que tu tournes dans le désert. Mais à un moment, reconnaissons dans nos vies et le Seigneur nous donnera la force et la capacité de dire « Oui, je te nettoie tout ça et je te donne ma nourriture divine. » Pour le peuple d'Israël, la manne était quotidienne. Ça les obligeait à s'attendre à Dieu au jour le jour, comme si Dieu voulait leur dire « T'inquiète pas pour demain. » J'aurai soin d'y pourvoir. Et là aussi, la dimension spirituelle est évidente. On ne peut pas spirituellement faire un seul repas le dimanche matin au culte et puis dire, allez, j'ai un bon repas, ça va tenir certainement jusqu'à... Allez, vendredi, samedi, je vais essayer de tenir jusqu'à samedi, ce serait bien. Et puis comme ça, dimanche, je me nourris de nouveau. Non, il est évident qu'on ne peut pas fonctionner comme ça. Et si nous voulons que notre foi, notre relation avec Dieu progresse et soit en bonne santé, nous ne pouvons pas nous contenter d'un seul repas de temps en temps, pour toute la semaine, voire pour plusieurs semaines. Il nous faut une nourriture quotidienne. Pour Élie, son expérience a été bien différente. Dieu lui a concocté un gâteau. Là, je ne sais pas les ingrédients qui étaient dedans. Le gâteau n'est pas tombé du ciel. Le gâteau, il a été fabriqué sur terre, mais avec des ingrédients très particuliers. Pour ceux qui ne connaissent pas ce passage, vous pourrez le relire. Mais en tout cas, ça lui a donné des forces pour une marche non-stop, 40 jours, 40 nuits. Là, ce n'était pas un marathon. Je n'ai pas calculé à la vitesse moyenne d'un bon marcheur 40 jours, 40 nuits, mais il a dû en faire de la distance sans s'arrêter. L'ange de l'Éternel ne lui a pas dit « Lève-toi, mange, car tu vas devoir marcher pendant 40 jours » parce que là, je pense qu'il serait reparti dans l'autre sens. Il serait reparti dans l'autre sens et on aurait certainement tous fait pareil. L'ange de l'Éternel lui a dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Entre autres, t'appuies pas sur tes forces, je vais t'amener quelque part, tu ne sais peut-être pas encore où, je vais t'amener quelque part. Tes forces physiques, naturelles, ne te suffiront pas, mais ma force va t'accompagner et c'est moi qui vais te donner les forces pour la marche. Et quand Élie s'est mis en route, il était loin de s'imaginer certainement qu'il allait marcher 40 jours et 40 nuits. Alors le premier soir, j'imagine, Élie qui avait fait une journée de marche, qui dit « Bon, ça va bien, je ne vais peut-être pas m'arrêter là, tout compte fait, on va continuer un petit peu. » Puis il marche toute la nuit, et puis le lendemain, ben, on va continuer. Et puis comme disent les jeunes, ouais, même pas fatigué, eh ben, allez, je continue, troisième jour, quatrième jour. Et chaque jour, il ne savait peut-être pas combien de temps ça allait durer. Parce que le Seigneur ne lui a pas dit « Tu vas marcher 40 jours ». Donc chaque jour, il avançait avec les forces que le Seigneur lui donnait et lui renouvelait. Mais Élie n'a pas marché dans n'importe quelle direction. Dieu le conduisait à un endroit particulier, à Horeb. Horeb, c'est le mont Sinaï. Et là, Dieu lui avait fixé un rendez-vous, comme il l'avait fait avec Moïse. Dieu amenait Élie à un rendez-vous, un face-à-face. Et alors qu'Élie avait fui complètement désespéré dans le désert, au point de s'asseoir sous un genêt et de réclamer la mort, Dieu lui a donné la vigueur surnaturelle pour marcher jusqu'au mont Sinaï, où il se présentera à lui. Et peut-être ce matin, plusieurs sont passés ou passent encore par des temps de désespoir, assis, découragés spirituellement, avec des pensées peut-être même de mort, de dire « mais de toute façon, je m'en sortirai jamais », voire même peut-être de mort physique, en disant « à quoi bon continuer à vivre si c'est pour vivre une vie comme ça ?» Et quand Élie s'est mis sous son genêt, pour réclamer la mort, ce n'était pas une mort spirituelle, c'était, certains diront un burn-out, certains diront peu importe les termes, mais c'était un désespoir profond. Et peut-être certains ce matin sont dans le désespoir profond, mais le Seigneur nous dit, laisse tomber tes illusions, échange ta nourriture, j'ai préparé un gâteau pour toi, un gâteau consistant, des forces. Échange ta nourriture insipide pour une nourriture consistante, et moi je vais te donner les forces, lève-toi. La seule chose que Élie a eu à faire, c'est lève-toi. Parce que Dieu ne lui a pas dit « je vais te lever », il lui a dit « lève-toi ». Et après ça, il lui a donné les forces. Et je voudrais t'encourager ce matin, mon frère, ma sœur, mon ami, à dire « si tu es désespéré, alors lève-toi ». Simplement lève-toi. En comptant sur les forces que le Seigneur veut te donner, et il va te faire marcher, peut-être pas dans la direction que tu avais imaginée, mais pour une rencontre personnelle et particulière avec le Seigneur. Le quatrième point, la dernière attitude, au-delà des circonstances, garder les yeux et les pensées fixées sur l'Éternel, le Tout-Puissant, et rechercher sa présence. Parce que dans ces temps-là, pourquoi ? Parce que l'homme aime bien tout comprendre et tout expliquer. Alors on se dit, le premier jour de désert, on se dit, bon, ça va le faire. Mais le deuxième jour, c'est plus tellement rigolo, le troisième jour encore moins, et on se finit par se poser plein de questions. Mais acceptons et gardons les yeux fixés sur l'Éternel. Si on acceptait de manière sincère de lui confier notre vie et que lui nous prend et nous fait traverser le désert, alors Seigneur, si c'est toi qui me mets au désert, ok, j'accepte. Apprends-moi, mais je veux garder les yeux fixés sur toi parce que tu es le Tout-Puissant, tu es mon Créateur. Et comme je le disais, de mon comportement dépendra l'issue. Devant la même situation, et voilà, c'est, là encore, on le voit au travers de la Bible, et particulièrement le peuple d'Israël, devant une même situation, l'un peut choisir de garder confiance en Dieu, et l'autre choisira de se rebeller. L'un peut choisir de bénir le Seigneur, l'autre peut choisir de tourner le dos au Seigneur. Dans le chapitre 14 du livre des Nombres, sur l'ordre que Dieu avait donné à Moïse, Moïse envoie 12 espions pour explorer le pays à conquérir, le pays de la promesse, l'héritage promis par Dieu. Les 12 reviennent, là, sur les statistiques, faut peut-être pas appliquer à chaque circonstance, mais moi, ça me parle beaucoup, parce que sur 12, qu'avaient été choisis, certainement représentatifs, sur les 12, seuls Josué et Caleb ont choisi de rester confiants et animés d'un esprit de conquête, s'appuyant sur la promesse du Seigneur. Ils n'ont pas dit que tout serait facile, mais ils avaient à l'esprit la promesse que Dieu avait faite. Et ils se sont dit, si c'est le pays promis, si Dieu est avec nous, alors oui, ce ne sera peut-être pas facile, mais Dieu me donnera la victoire. Et ils avaient cet esprit de conquête. Et les 10 autres ont découragé le peuple, décrivant une terre promise comme un pays qui dévore ses habitants. Alors là, ça galopait. Hein. Un pays qui dévore ses habitants, allant jusqu'à dire, on va se nommer un chef qui nous ramène en Égypte, parce que tout compte fait, c'était mieux en Égypte. Et si Dieu n'était pas intervenu, ils étaient même prêts à lapider Moïse et Aaron. Dans ce même chapitre, au verset 26, l'Éternel parla à Moïse et Aaron et dit « Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi ?» J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. « Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. » Vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous, dont on a fait le dénombrement en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi, vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephunné, et Josué, fils de Nun. Et vos petits-enfants, dont vous avez dit ils deviendront une proie, je les y ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres à vous tomberont dans le désert et vos enfants paîtront 40 années dans le désert et porteront la peine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour. Et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Et c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi. Ils seront consumés dans ce désert et ils y mourront. Moi, ce texte, il me fait froid dans le dos. Il me fait froid dans le dos. Et pourtant, il y a toute une partie du peuple d'Israël qui est entrée dans le pays promis, qui a pris possession du territoire pour chaque tribu. Et il y a toute une génération qui est morte dans le désert. Même situation, deux situations diamétralement opposées. Conquête du pays promis ou mort dans le désert. Et Dieu n'a pas renié sa promesse. C'est le peuple qui n'a pas pu la saisir. Souvent, on entend « Dieu m'a fait une promesse », soit de manière personnelle, soit dans la Bible. La Bible, et merci Seigneur, est pleine de promesses. Mais Dieu ne renie pas sa promesse. Jamais, jamais, jamais. Si elle ne s'accomplit pas, ce n'est pas de sa faute. C'est parce que je n'ai pas pu la saisir, je n'ai pas voulu la saisir, parce que j'ai murmuré, parce que j'étais incrédule et je n'ai pas goûté à la promesse que Dieu avait donnée. Alors, 4 postures à avoir dans nos temps de désert. Reconnaître nos passages au désert comme un temps de formation de la part du Seigneur. Être des disciples à l'écoute, dociles, enseignables. Faire un bilan nutritionnel. C'est bien de temps en temps de faire un bilan nutritionnel. Pour rejeter toute nourriture mondaine et nous nourrir uniquement du pain de vie, et puis garder une totale confiance en Dieu, notre Créateur, maître des temps et des circonstances. Et je voudrais, pour terminer, qu'on lise ensemble le chapitre 63, oui, le psaume 63, écrit par David. Psaume 63. Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda, ce n'est pas écrit lorsqu'il a été et qu'il est retourné à une meilleure fortune quand tout allait bien. Il l'a composé quand il était dans le désert, quand il était dedans. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Tu es mon Dieu, je te cherche. Je suis dans le désert, j'y comprends rien, Saül veut me faire la peau, j'ai une armée à mes trousses, mais tu es mon Dieu. Et je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Sa véritable soif, c'était pas, même pas à ce stade-là de savoir comment il allait s'en sortir. C'était, Seigneur, j'ai besoin encore plus de ta présence, j'ai soif de toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi, je contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Je ne regarde pas à mes faiblesses, je ne regarde pas aux circonstances actuel, je ne regarde pas la difficulté, à la chaleur torride. Dans cette terre aride, je contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. » Il pouvait déjà, de manière prophétique, dire qu'il allait voir la puissance de Dieu à l'œuvre. Ce verset que nous chantons, « Car ta bonté vaut mieux que la vie, m'élève, célèbre tes louanges. » Et là, je pense qu'il ne savait pas comment il allait s'en sortir. Et certainement qu'il s'est dit, si je dois mourir, si je dois y laisser ma peau, mais de toute façon, dans tous les cas, Seigneur, ta bonté, elle vaut mieux que la vie. Ta bonté vaut mieux que la vie. Et je célèbre tes louanges, je te bénirai toute ma vie, qu'elle soit courte, qu'elle soit longue, qu'elle soit simple, qu'elle soit difficile. Je te bénirai donc toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée de la nourriture encore. Mon âme sera rassasiée comme de mes grailles succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Oui, je suis dans le désert, j'ai peut-être pas la force aujourd'hui. J'ai peut-être pas la force dans le désert. Mais là aussi, je veux voir la sortie, je veux voir la bénédiction qui arrive, je veux voir ce petit nuage qui annonce l'ondée divine et dire par la foi, avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant l'éveil de la nuit. Il a dû faire quelques nuits d'insomnie, je me suis dit. Je ne sais pas si ça vous arrive. Eh bien, lui, il n'était pas en train de cogiter et d'essayer d'échafauder des plans. Il disait, pendant l'éveil de la nuit, qu'est-ce que je fais ? Je médite sur toi, Seigneur. Je médite sur toi. Tu es bon, tu es grand, tu es fidèle. Je ne te vois pas là, c'est compliqué, mais je sais que tu es grand et que tu agiras. Car tu es mon secours, et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés au glaive, ils seront la proie des chacals. Celui qui veut nous ôter la vie, un jour il sera lié. Un jour il sera lié. Il ira dans les profondeurs de la terre. Même si aujourd'hui il est encore là, avec tout le déchaînement de violence, avec tout ce qu'il peut essayer encore de prendre dans nos vies, un jour celui qui cherche à monter la vie ira dans les profondeurs de la terre. Il sera livré au glaive, il sera la proie des chacals, et le roi se réjouira en Dieu, quiconque jure par lui s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. Amen. Que le Seigneur nous conduise, nous aide, dans ces moments où parfois nous n'y comprenons plus grand-chose, dans ces moments où on a l'impression de tourner en rond, de dire « Seigneur, apprends-moi à être à ton écoute, à être obéissant, à être un disciple qui va de progrès en progrès. » Je te bénis, je te